ici à Londres, puisque vous m'entendez à nouveau, je crois, à Paris. Marc Fauvel, vous êtes...
Je vous le confirme, on vous entend tous, Patrick, hein, normalement.
Bon, très bien, c'est revenu. Pardon pour ces difficultés de liaison. Nous allons maintenant tenter une liaison entre Londres et Marseille, liaison assez inédite. Bonjour François Morel.
Bonjour Patrick.
Vous serez à 9h-5.
Oui, parce qu'un événement risque de bouleverser pas mal les résultats des législatives ce dimanche en France.
Et vous allez nous le révéler tout à l'heure dans un quart d'heure environ. Retour à Londres dans un instant avec nos invités pour commenter les résultats surprises de ces élections britanniques.
Le 10 juin, participez au rendez-vous des biotonomes organisé par Biocop. Venez faire du vélo smoothie, fabriquer des produits bio, immergez-vous en réalité virtuelle et découvrez des solutions pour consommer mieux et moins. Bref, jouez, rencontrez, dégustez. Des événements Biocop partout en France. Sur Paris, rendez-vous au Café A, métro Gare de l'Est. Plus d'infos sur biotonome.fr.
En ce moment, c'est le printemps bio. Venez découvrir l'agriculture biologique et ses produits au travers de centaines d'événements dans toute la France. Retrouvez-les sur le site labiodesquatresaisons.eu et jouez sur la page Facebook Agriculture Biologique pour gagner des paniers bio. Manger bio, produire bio, c'est bon pour moi et pour la planète.
Message cofinancé par l'Union Européenne et l'Agence Bio.
Vous avez remarqué, quand on est un pro, on est très entouré. Salariés, fournisseurs, prestataires. Mais au moment de prendre des décisions importantes, on est souvent seul.
Au Crédit Agricole, première banque des pros, être un vrai partenaire, c'est vous écouter, vous accompagner tous les jours et vous aider dans les décisions qui comptent pour vous et votre activité.
Crédit Agricole, toute une banque pour vous.
Première banque des pros en termes de pénétration commerciale, source étude Pépite CSA juin 2016.
Il est 9h-20.
En direct de Londres, matinale.
Allô, allô, que se passe-t-il? Où sommes-nous? Nous sommes à Londres, en tout cas, si vous nous entendez, depuis la rédaction du Financial Times, ici au bord de la Tamise. Et si vous nous rejoignez à l'instant, je vous rappelle les infos de la nuit, cette énorme déconvenue pour Theresa May, qui avait convoqué des élections pour renforcer sa majorité avant de négocier le Brexit. C'est le contraire qui s'est produit. Les travaillistes se renforcent. On ne sait pas encore qui va gouverner le pays. Peut-être, sans doute, Theresa May à brève échéance, mais peut-être pas pour très longtemps, nous disaient nos invités tout à l'heure, avec peut-être la perspective de nouvelles élections générales. Quel Brexit, Peter Rickett, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en France. Est-ce que c'est la méthode de Theresa May, celle du passage en force, celle de la formule « mieux vaut pas d'accord qu'un mauvais accord », ce qu'elle a répété pendant sa campagne, est-ce que c'est cette méthode qui a été sanctionnée?
C'est la méthode et la substance, je pense. Et nous sommes dans la position intéressante maintenant que le projet de Theresa May qu'elle a présenté au peuple et à Bruxelles n'a pas été suivi par l'électorat, mais il n'y a pas d'autres projets sur la table, parce que les travaillistes n'ont pas été clairs sur leur projet d'Europe. Alors il y a d'abord la méthode qui était assez secrète, assez non transparent, et ça doit changer clairement au sein du Parti conservateur, avec le pays et peut-être avec Bruxelles.
Vous dites que les travaillistes n'ont pas été clairs, Peter Rickett. Moi, j'avais cru comprendre que le message était assez simple, c'est-à-dire oui, il faut négocier, nous voulons rester dans le marché unique européen, et à la fin des négociations, éventuellement, nous présenterons un nouveau référendum aux Anglais, aux Britanniques. Non, ça n'est pas ça. J'ai pas compris.
Le seul parti politique qui a proposé un nouveau référendum, c'est les libéraux.
Ah oui,
alors,
pardon,
il y a un certain flou dans la position travailliste, à mon avis. Bien sûr, ils sont pour un Brexit qui est moins dur que les conservateurs. Ils sont prêts à regarder peut-être de rester dans l'union douanière, par exemple. Et ils voulaient une vote au Parlement en fin de processus. Et parce que l'arithmétique parlementaire va être très différente, ça peut poser un problème. Mais il n'y a pas un mandat clair pour mettre à côté du projet de Theresa May. Alors, on est un peu dans le flou.
On est dans le brouillard. Ben Hall, chef du service diplomatique du Financial Times, on ne sait pas donc comment les choses vont se passer pour la négociation du Brexit. Mais cette question du Brexit et de la méthode May, ça a été assez absent de la campagne. Ça n'a pas fait l'objet de débats publics pendant cette campagne électorale.
Pas du tout. Il n'y avait pas de débat approfondi sur le Brexit, sur la manière de la sortie, sur la relation entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne après le Brexit. Donc, c'était pas une question. Quelque chose sur les travaillistes. Maintenant, je crois qu'ils vont changer de position sur le Brexit. Ils vont devenir plus modérés, peut-être. parce qu'ils n'ont pas su faire le rejet des votants dans leur circonscription eurosceptique. Mmh. Et je crois que pour ça, parce qu'ils étaient divisés avant, des travaillistes au sud qui étaient plus pro-européens, des travaillistes dans des circonscriptions du nord qui étaient beaucoup plus eurosceptiques. Et je crois que ça, probablement, ça va changer.
Dans quelle direction ça va changer? Vous dites qu'ils vont devenir plus modérés, en quel sens?
Les travaillistes dans le Nord peuvent être plus pro-européens maintenant,
voilà,
parce qu'ils n'ont pas payé une pénalty pour être sur cette ligne. Donc je crois que dans cette élection, ils ont plus d'espace pour être plus modérés.
Peter Ricard.
Il y a encore un élément important, parce que le gouvernement c'est minoritaire, ils doivent gouverner avec un arrangement avec les unionistes austères, alors ils seront dans une position très forte de demander une position dans le Brexit qui est dans l'intérêt de l'Irlande. Alors, c'est-à-dire la frontière entre le nord et le sud de l'Irlande, la façon qu'on va, on va faire la commerce, etc. Ça va être maintenant, ils peuvent imposer leur point de vue parce qu'ils seront absolument essentiels pour garder les conservateurs au pouvoir.
Alors, il faut parler d'économie, c'est important. Et puis, nous sommes ici au Financial Times. Le Brexit, je le rappelle, n'a pas eu lieu, contrairement à ce que certains répètent en France. Mais l'économie britannique ne va pas très bien. Enfin, elle semble un petit peu piquer du nez, Ben Hall.
Ça commence à perdre de vitesse. Et probablement à cause de la chute du sterling et la hausse d'inflation,
La livre est très basse, elle a chuté d'ailleurs cette nuit après les premiers résultats d'élections, ce qui n'est pas bon pour le pouvoir d'achat des Britanniques évidemment. Et la croissance ralentit, 1,6 à peu près, 1,6%.
Et aussi l'incertitude totale qui règne maintenant sur le Royaume-Uni, ça va aussi peser sur l'économie, certainement.
Les milieux économiques n'aiment pas l'incertitude, et évidemment. Quid à présent des attentats? Est-ce que la série d'attentats qui se sont produits en Grande-Bretagne et le dernier samedi à deux pas d'ici, évidemment, sur le London Bridge et Borough Market, est-ce que ça a eu un effet sur la campagne? On en a parlé tout à l'heure, on a évoqué la polémique qui a suivi. Theresa May était pendant 6 ans ministre de l'Intérieur, de 2010 à 2016. Ses adversaires l'ont accusé d'avoir supprimé 20 000 postes de policiers, d'avoir réduit les effectifs de police. Peter Ricard, est-ce que ça a eu un effet sur l'opinion?
À mon avis, pas très important. Normalement, on imagine que des attentats comme ça vont favoriser le Premier ministre expérimenté qui est passé des années sur ces sujets-là. Mais effectivement, elle était très critiquée pour être ministre pendant la réduction d'effectifs policiers par 20 000. Alors, le résultat de tout ça, je ne pense pas que c'était un effet dominant, déterminant dans l'élection, non.
Ça n'a pas joué, Ben Hall?
Ce qui était remarquable, c'est que Jeremy Corbyn avait converti cette question, qui était une vraie faiblesse de lui sur les questions sécuritaires. Il est très faible.
Un pacifiste. Il avait des
amitiés avec des groupes terroristes dans le passé, tout ça. Mais il l'a converti dans un point fort, parce qu'il avait tout à fait focalisé sur la question de perte de la réduction des effectifs dans la police, et Theresa May était sur la défensive sur cette question. C'était vraiment un vrai démarche politique de sa part de Jeremy Corbyn.
Pour Corbyn, on va parler d'amitié avec des groupes radicaux plutôt qu'avec des groupes terroristes. Vous en serez d'accord.
Excusez-moi.
Ben Hall. Bonjour Roula Khalaf. Bonjour à vous. Merci d'être à ce micro. Vous êtes journaliste au Financial Times. Vous êtes d'origine libanaise. Je voulais savoir et voir avec vous si il y avait eu quel avait été le débat en Grande-Bretagne autour à la fois des attentats et des propos de Theresa May semblant regretter une forme d'organisation de la société britannique, cette communautarisation. On n'est plus, même si on n'est plus dans le Londonistan des années 80. Mais qui aurait pu favoriser la radicalisation de ceux qui ont choisi de provoquer des attentats suicides.
Bon, comme mes collègues ont dit, il y avait très peu en fait de débats. C'est pas ce qui se passe en Grande-Bretagne. Quand il y a des attentats, en fait, il y a très rarement un vrai débat, surtout sur ces questions, parce que ce sont des questions très très sensibles. Et donc Theresa May a essayé d'une certaine manière d'exploiter les attentats pour dire il faut qu'on ait une politique plus dure. Nous avons des problèmes dans certaines communautés musulmanes, mais il faut se rappeler que ça c'était 3 jours avant les élections. Et donc il n'y a pas vraiment eu de débat sur la question. Ça a été dit. Il y a eu beaucoup plus de débats en fait sur le nombre de policiers. Et c'est possible que cette question ait eu un effet sur les élections. Il faut attendre quelques jours pour toutes les analyses, pour que il y aura beaucoup d'analyses sur quels étaient quel était le vrai effet du Brexit, quel était le vrai effet de la question du nombre de policiers. Mais parce que j'ai l'impression quand même que les Britanniques ont voté sur des questions très domestiques et non pas sur des questions sur l'Europe ou sur le Brexit. Et donc, je pense qu'on verra dans les jours qui suivent quel vrai effet a eu ces attentats.
Si je vous entends bien, on a évalué, on en a parlé tout à l'heure, des effets de l'austérité et ça a été le cas pour le système de santé, et parmi les effets de l'austérité, la diminution des effectifs policiers, effectivement, 20 000 suppressions de postes en 6 ans, alors que Jeremy Corbyn lui proposait de remettre 10 000 policiers. Mais
c'est la question, à mon avis, c'est la question d'austérité qui a joué le plus grand rôle dans ces élections. Et Jeremy Corbyn avait un message positif. Nous ne sommes pas d'accord avec lui, mais pas du tout au Financial Times, mais il avait quand même un message positif. Et si on regarde que ce soit Macron en France ou Trump aux États-Unis ou le Brexit, ce que les voteurs, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment, c'est un message positif, un message d'espoir et non pas un message d'austérité, de duresse, même de stabilité. J'ai l'impression que les gens ne veulent pas nécessairement de stabilité. Ils veulent quelque chose de nouveau.
Sortons du débat électoral quelques instants tout de même, et pour parler de ce risque terroriste, de ces 3 attentats en 3 mois qui en Grande-Bretagne ont fait qui ont fait combien, 80 morts, hein, c'est ça,
plus ou moins,
un petit peu moins. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de questionnement au sein de la société britannique ou dans la presse sur les raisons de la radicalisation des jeunes qui ont commis ces actes.
Je pense qu'il y a, enfin, dans la société britannique, on parle souvent de cela. Ce qui est très choquant, je pense. Les gens n'ont pas eu encore le temps de considérer et d'y réfléchir beaucoup à cause des élections, mais je pense que ça viendra. C'est le fait que tous ces gens qui ont commis ces attentats étaient connus, dans leur société, comme extrémistes, et deux, par les services. Et donc, je pense qu'il va y avoir pas mal de discussions. Il va falloir revoir beaucoup de, surtout la politique de prévention.
Ouais. Et les failles des services de sécurité.
Absolument.
Qui ont laissé passer entre les mailles certains de ces terroristes. Peter Rickett.
Mais c'est comme en France, quand on a un attentat comme ça, on trouve après que la plupart des gens étaient connus des services de sécurité, mais qui n'étaient pas soupçonnés à être prêts à préparer une attaque. Je pense qu'on va continuer le débat après les élections. Ce qui se passe maintenant, c'est ce type de terrorisme bricolage, là, les voitures beliées, les couteaux. Alors, il n'y a pas beaucoup de préparation. Et c'est très, très difficile pour les services de sécurité de voir les préparations en cours. On a besoin, comme disait Raoul Akalaf, beaucoup plus d'informations de la communauté, des amis, de la famille, des proches de ces jeunes qui sont tentés par la violence, et il faut revoir tout notre système de prévention, l'action du gouvernement pour encourager des voix modérées dans la communauté musulmane et beaucoup plus d'efforts par la communauté musulmane. Je pense qu'il y a un grand débat à venir, mais la campagne électorale n'était pas le moment pour ce débat-là. Et si ce n'était pas vraiment un grand sujet dans l'élection, c'est peut-être une bonne chose. C'est-à-dire que les terroristes n'ont pas pu empêcher les autres questions dans notre débat national.
Merci à vous, Peter Ricketts, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en France. Merci, Ben Hall, chef du service diplomatique du Financial Times. Et merci de nous avoir accueillis dans ce bel immeuble et dans ces locaux magnifiques avec une vue sur la Tamise. Merci à vous, Roula Khalaf, de nous avoir rejoints à ce micro. On va marquer une courte pause pour la publicité avant de retrouver François Morel depuis Marseille.